Bonjour à tous, bienvenue dans le débat de midi. Ici, l'été venu, on discute des sujets qui font l'époque. Et aujourd'hui, on va parler réchauffement climatique. Alors non, ça n'a rien à voir avec la météo que nous subissons au-dessus de la Loire et qui nous montre que nous sommes bien en vacances, mais en vacances de Noël sûrement. Alors, s'adapter au changement climatique est devenu une nécessité pour l'espèce humaine, mais posons ce midi une question prosaïque. Combien ça va coûter? Alors, pour préparer notre neutralité carbone en 2050, il faudrait investir 462 milliards en 7 ans. Ça fait un petit paquet. Jusqu'en 2030, cela représente 66 milliards d'euros par an supplémentaires. Ces chiffres ne viennent pas d'un organisme obscur. Non, il s'agit du rapport France Stratégie, organisme rattaché à Matignon. Et ce rapport a été publié le 22 mai dernier. 150 pages pour mesurer l'impact économique du changement climatique sur le pays. Et cette proposition à l'intérieur de l'économiste Jean Pisani-Ferry, il propose un prélèvement exceptionnel, temporaire et calibré, assis sur le patrimoine financier des 10% des ménages les plus aisés. Voilà comme c'est écrit. Et donc lui, s'il ne parle pas d'ISF climatique, mais revoilà en tout cas cette idée, initiée par Greenpeace en 2020, repris par certains candidats à la présidentielle, soutenue par de nombreux écologistes, cette proposition a été exclue par le gouvernement. Mais elle reste dans l'air. Le patrimoine financier des 1% des ménages les plus riches émettrait une empreinte carbone 66 fois supérieure à celle des 10% les plus pauvres. Alors faut-il taxer les plus fortunés pour sauver le climat, ou chacun doit-il participer au combat contre le réchauffement climatique à hauteur de ses moyens? Le débat est vaste et costaud. N'hésitez pas à nous envoyer vos notes vocales et vos messages via l'appli France Inter. Mais il y a également aussi une petite nouveauté, puisque vous pouvez nous envoyer via WhatsApp. Voilà, aussi au numéro suivant, au 07 64 13 70 07, 07 64 13 70 07, pour vos messages. Voilà, on essaye vraiment d'inonder au maximum pour avoir un maximum de réactions. La table est dressée, le débat de midi commence tout de suite.
Jean-Mathieu Bernin, le débat de midi. Sur France Inter.
Voilà, et pour en parler ce midi autour de la table, nous retrouvons Alma Dufour. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes députée France Insoumise, donc de Normandie.
Oui.
Vous avez été chargée de campagne et porte-parole de l'ONG Les Amis de la Terre de 2017 à 2021. Également Olivier Blond. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de santé environnementale à l'Université catholique de Paris, conseiller régional Île-de-France. Vous êtes élu LR et délégué spécial à la santé environnementale et à la lutte contre la pollution de l'air auprès de Valérie Pécresse, auteur du livre « Plaidoyer pour une écologie de droite ». Jérôme Frignet, vous êtes directeur des programmes de Greenpeace. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, vous nous entendez bien. Vous êtes en liaison par téléphone. Et Lucas Chancel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste français, enseignant à Sciences Po. Et vous êtes co-directeur et économiste au laboratoire sur les inégalités mondiales à l'École d'économie de Paris. Alors, on parle d'ISF climatique. C'est vrai que l'ISF n'existe plus maintenant, puisqu'il a été remplacé depuis 2017. Mais l'ISF climatique, pour faire payer aujourd'hui les Français les plus fortunés, afin de trouver de l'argent suffisant pour la transition énergétique. Forcément, Jérôme Frignet, vous qui êtes directeur des programmes de Greenpeace, je me tourne vers vous. On dit que c'est Greenpeace qui a initié cette idée, c'est vrai?
Alors, c'est vrai que nous l'avons formulé et un peu théorisé, indiquant notamment ce qu'on pouvait espérer en termes de rendement et quelles pouvaient être les options en termes de prélèvement fiscal. Et l'idée, c'était effectivement de soumettre cette idée au débat public. On s'est réjoui que, à l'occasion de la campagne présidentielle, certains candidats reprennent à leur compte cette idée. Et fasse parler de ce sujet, parce que c'est vraiment un sujet qui nous paraît important, à la fois du point de vue de l'efficacité, où est-ce qu'on peut trouver des fonds, mais aussi parce que c'est très important dans une optique de justice sociale, parce que ces fonds-là, il faut cette transition, il faut la financer de la manière la plus équitable possible et viser à réduire les inégalités au même moment qu'on avance dans la transition. C'est indispensable pour son acceptabilité.
Jérôme Frignet, ça a été simple à faire accepter, à imposer auprès de certains candidats à la présidentielle ou même du monde politique et associatif au départ, cette idée, où ça a semblé presque farfelu pour certains?
Non, je pense que les candidats ou les personnalités publiques qui s'en sont emparées, qui l'ont relayé, trouvaient cette idée, somme toute, tout à fait naturelle, logique. Est-ce que c'est pas logique de faire payer des gens qui, d'une part, en ont les moyens, et puis d'autre part, par leur placement financier, contribuent, parce qu'ils sont détenteurs d'actions, par exemple, dans des entreprises qui produisent des combustibles fossiles. Donc ces acteurs-là contribuent aussi à la perpétuation et à l'aggravation du problème. Donc il paraît tout à fait logique de faire payer ceux qui en ont les moyens et qui sont en partie responsables du problème par leur placement financier.
Alors Lucas Chancel, vous êtes économiste. Pour vous, cette proposition est-elle intéressante? On parlera de sa réalisation ensuite, mais sur le concept.
Oui, elle me semble tout à fait intéressante. Le contexte dans lequel elle arrive, c'est un contexte de double crise, la crise climatique et la crise des inégalités. La crise climatique, on l'a devant nous, les thermomètres explosent à peu près partout sur le globe. Le mois de juillet est le mois le plus chaud jamais enregistré. Probablement le mois le plus chaud auquel les civilisations humaines aient jamais été confrontées. Et face à cette crise climatique, les solutions, on les connaît, elles sont toutes bien établies dans les rapports du GIEC. Il faut investir massivement dans la transition. Vous avez rappelé les chiffres au niveau de la France, 66 milliards d'euros par an oui, supplémentaires pour investir dans la rénovation thermique des logements, du tertiaire, il y a 1 milliard de mètres carrés en France dans le secteur tertiaire, dans le secteur de l'énergie, des transports, etc. On ne sait pas bien où trouver cet argent. C'est difficile de dégager des marges de manœuvre de financement public supplémentaire, on le voit à longueur de débat public. Et c'est là que cette crise climatique rejoint l'autre sujet qui est la crise des inégalités et la crise de la justice fiscale. La France n'a jamais été aussi riche. Mais depuis 40 ans, ces richesses n'ont jamais été aussi concentrées. D'accord. Je donne un chiffre qui est clé. En 2010, les 500 fortunes les plus riches de France possédaient l'équivalent de 10% du PIB. Aujourd'hui, c'est 40%. C'est-à-dire que leur patrimoine a cru 4 fois plus vite que le PIB. On sait par ailleurs que les super riches ont des taux d'impôts qui sont plus faibles que celui des classes moyennes. C'est ce que disait Warren Buffett aux États-Unis au début des années 2010. Je paye moins d'impôts, mon taux d'impôt est plus faible que celui de ma secrétaire.
Voilà, Warren Buffett, milliardaire américain.
En fait, c'est pas différent en France. Donc, il y a un vrai sujet de sous-paiement ou d'évitement de l'impôt au sommet de la pyramide sociale. Les très riches payent moins d'impôts en proportion de leurs revenus que les classes moyennes. Et dans ce contexte-là où il y a besoin de dégager de nouvelles marges de manœuvre de financement public de la transition, il apparaît effectivement tout à fait logique, comme il vient d'être dit, et très pertinent de discuter de cette ISF climatique.
Alors, Alma Dufour, pour vous, c'est aussi une position intéressante. Aujourd'hui, on le voit, en effet, ces sources de financement pour cette transition, on le cherche. Alors, on voit bien d'où ça vient aussi, il y a l'impôt, etc. Mais pour vous, aujourd'hui, faire payer, je reprends cette initiative de Greenpeace, donc de faire payer les plus riches, en fait, comme une sorte d'ISF climatique, puisque le terme est lancé exprès ISF, pour vous, c'est véritablement intéressant, une solution à explorer?
Ah bah, bien sûr. Bien sûr, bon, ça vous étonnera pas. Hein.
Non, bien sûr,
ça vous étonnera pas. Mais
je connais un petit peu les positions de chacun.
Voilà. Mais on le sait, la France Insoumise dénonce depuis de nombreuses années l'explosion des inégalités qui a été très brillamment exposée par Monsieur Chancel juste avant. Donc ça, c'est un fait en France. On a un vrai problème d'inégalité et une sorte de sécession des élites, des 1% notamment, qui contribuent de moins en moins à faire nation, comme dirait Emmanuel Macron, et aux grands enjeux qu'on a devant nous. Et évidemment, la question du changement climatique arrive en tête, puisque c'est la plus grande menace, en fait, que l'humanité ait jamais eu à affronter, tout simplement. Et je rappellerai à mes concitoyens normands que c'est pas parce qu'il pleut aujourd'hui en Normandie que le réchauffement climatique n'est pas une réalité. Il faut s'en rappeler, parce qu'il y a des pays aujourd'hui qui sont au bord du basculement à cause du changement climatique. La France, ça commence à arriver. Je rappellerai quand même que juste dans le sud de la France, dans les Pyrénées-Orientales, on doit réduire la production de fruits et légumes parce qu'il n'y a plus d'eau. Enfin, ça, c'est des réalités qui commencent à arriver
très
dans notre pays. Et c'est le plus. Et en gros, même d'un point de vue, en utilisant des termes économiques, ce sera la plus grande chute des gains de productivité que notre économie et que l'économie mondiale aura à connaître. Donc, c'est majeur. Or, vous l'avez dit, il faut beaucoup plus d'argent que ce qui est mis sur la table. Emmanuel Macron s'était engagé l'année dernière en promesse de campagne à mettre 10 milliards de plus dès le budget 2023 sur la table. Il ne l'a pas fait. Et là, on se dirige vers le budget 2024 et le compte n'y est pas du tout. Il n'y a même pas les 10 milliards, on est autour de 7 milliards en plus. Et en plus, là, on parle quand même de 60 milliards 66, argent public, ouais, et privé, public et privé. Donc, ce n'est pas que du budget. Mais néanmoins, c'est colossal l'argent qu'on doit mettre en plus. Il y a deux solutions. Soit plus d'impôts, soit plus de dettes, soit probablement les deux, parce qu'effectivement, les montants à investir sont tellement énormes qu'il va falloir aussi maintenant réfléchir peut-être à libérer des règles de la dette normale, la question des investissements dans la transition écologique et dans les infrastructures. Donc oui, on est très, très, très favorable à cette mesure, et on est très étonné que le camp macroniste refuse de regarder la réalité en face, alors que M. Pisani-Ferry n'est pas un grand gauchiste, c'était l'inspirateur du programme d'Emmanuel Macron.
En 2017.
En 2017, si même lui en arrive à cette conclusion, c'est qu'à un moment donné, il va bien falloir trouver l'argent. Or, effectivement, Mme Borne n'annonce aucune solution concrète pour l'instant pour financer autrement. Si elle ne veut pas prendre cette proposition de plus d'impôts.
On va revenir
de...
sur, en effet, Jean Pisani-Ferry et sa proposition. Juste savoir que Elisabeth Borne, récemment, a retenu tout de même ce chiffre de 60... Alors, elle a dit 60 milliards, pas 66. 60 milliards, mais en effet, on est quand même sur des chiffres assez impressionnants. Olivier Blond, pour vous, en effet, quand on voit l'énormité de ces chiffres, 66 milliards chaque année, un ISF climatique sur les Français les plus fortunés, c'est une piste?
Alors... D'abord, le premier point sur lequel je pense qu'on s'accorde tous, c'est que effectivement la crise climatique, elle existe, oui. Elle est présente, elle est causée par l'homme. Il faut réagir et effectivement, il faut mobiliser des milliards, 60 milliards environ. Ça, on est tous d'accord. Et la question, c'est effectivement où est-ce qu'on les trouve.
C'est ça.
Et moi, je pense que l'ISF climatique, comme il est appelé, n'est pas une bonne solution. D'abord parce que il ne répond pas à l'enjeu. On est à quelques milliards, alors que l'enjeu c'est 60 milliards. Ou en tout cas en termes d'ordre de grandeur. Et en plus, parce que c'est pas forcément ça qui va réduire les inégalités. Monsieur Chancel parlait des stratégies d'évitement des plus riches. On sait qu'elles sont multiples et assez sophistiquées. Et je pense, et c'est la leçon qu'on peut tirer de l'expérience de l'ISF, c'est que justement, en fait, c'est un impôt qui est contre-productif.
Contre-productif, vous dites.
Au sens où, oui, il ramène des ressources, mais... Par ailleurs, il va amener des comportements d'évitement, donc des gens qui vont domicilier leur richesse ailleurs, qui vont carrément aller à l'étranger, qui vont, en gros, diminuer la richesse du pays, et donc c'est pas une bonne solution. Et pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, sur comment est-ce qu'on les trouve, vous avez dit qu'il y avait deux solutions, plus d'impôts ou plus de dettes. Moi, je pense qu'il y a une troisième solution, en tout cas, c'est celle que j'ai envie d'explorer, c'est plus de richesse, parce que si on augmente la taille du gâteau, eh ben, les mêmes taux d'impôts vont permettre de délivrer des richesses supérieures et donc une capacité d'investissement.
Alors, Lucas Chancel, c'est vrai aussi ce que dit Olivier Blond. On l'a souvent entendu quand l'ISF était en place. Les plus fortunés partiraient. Je rappelle en effet que là, c'était les chiffres, Direction Générale des Finances Publiques, c'était en 2015. Donc, 342 000 contribuables soumis à l'ISF. Et ça rapportait en 2015 5,2 milliards d'euros. C'est pas... si important que ça quand on cherche 66 milliards, si ?
Alors, le premier point, c'est... je pense qu'il faut vraiment analyser les faits pour revenir sur un certain nombre de mythes qui ont été véhiculés autour de l'ISF. Premièrement, l'idée selon laquelle un impôt sur la fortune des très aisés serait pas bon pour l'économie, il empêcherait l'investissement, il empêcherait l'embauche, etc. On a supprimé l'ISF. A-t-on vu un surcroît d'investissement dans les entreprises qui étaient le plus touchées par les gains liés à la suppression de l'ISF sur leurs propriétaires? Non. Et je renvoie tous les auditeurs au rapport commandité par le gouvernement sur l'évaluation de cette suppression de l'ISF qui dit très clairement, voit-on des effets sur l'investissement et sur l'emploi en France suite à la suppression de l'ISF et l'autre réforme sur la fiscalité du capital qui avait été faite au même moment, c'est-à-dire le prélèvement forfaitaire à taux unique sur les revenus du capital. Voit-on des effets sur l'investissement, sur l'embauche? Non.
Alors, je ne suis pas d'accord.
Écoutez, France regardez. Il faut très bien...
Attendez, on va y aller chacun son tour. Et après... Allez-y, je termine le cache.
Alors, donc, il faut lire ce rapport, le lire très précisément. Les études de l'Institut des politiques publiques, institut indépendant qui a été fait sur ces questions, sont très claires. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que même s'il y a des stratégies d'évitement de personnes qui peuvent se localiser à l'étranger, il faut ici se rappeler que l'évasion fiscale n'est pas une loi de la nature qui s'imposerait aux économies comme la gravité. En fait, c'est quelque chose qu'on peut régler, c'est quelque chose sur laquelle les économistes travaillent depuis de nombreuses années maintenant et ont une série de propositions pour justement éviter cet évitement. Donc, il faut, je pense, sortir d'une logique consistant à se dire on ne peut rien faire. La manière avec laquelle on a organisé l'impôt, son financement, sa répartition au cours des 30 dernières années est gravée dans le marbre pour toujours. Non, c'est faux. On peut faire beaucoup mieux. Les Américains ont des propositions et avancent dans ce sens. Je pense qu'en France, on peut aussi avancer. Et sur les ordres de grandeur, donc l'ISF récoltait environ 5 milliards. En fait, cet ISF, là où peut-être je rejoins Olivier Blond, en fait, il était truffé de mécanismes d'évitement légaux.
D'accord, c'était facile en gros de partir pour s'exiler
en
fiscalement.
En fait, les biens professionnels étaient exclus du calcul de l'assiette de l'ISF. Vous pouviez bénéficier du mécanisme de plafonnement à 75% des revenus. Pas payer plus de 75% de ses revenus en ISF. Et tout ça combiné faisait qu'en fait, les très riches parmi les super riches payaient moins d'ISF que ceux qui étaient un petit peu moins riches. Donc en fait, il y avait des trous dans la raquette de partout. La solution était de se dire, bon, bah, on met la raquette à la poubelle, plutôt que d'essayer d'augmenter le niveau de la maille et du cordage, si vous voulez.
D'accord.
Et donc, c'est une stratégie de réforme tout à fait différente qui pourrait récolter non pas 5 milliards, mais plus 10 à 15 milliards d'euros par an, à minima.
Juste avant de vous redonner la parole à tous les deux, Jérôme Frignet, vous l'entendez aussi, finalement, cette critique sur l'ISF parce que c'est vrai qu'on a en parallèle, on a un effet miroir par rapport à cet ISF qui avait été mis en place dans les années 80, l'impôt sur la fortune, de dire « Ah bah oui, mais ça fait partir aussi les plus fortunés ?»
Alors, je voulais revenir sur ces arguments.
Oui.
Parce que ce sont des arguments de notre point de vue idéologique et qu'on entend à chaque fois dans la bouche de gens finalement qui ne veulent rien faire. On l'entend pour l'agriculture. Alors il faudrait surtout pas imposer des normes au niveau de l'agriculture pour réduire l'usage des pesticides, réduire les émissions de gaz à effet de serre, parce que notre agriculture ne serait plus compétitive par rapport à nos voisins. On l'entendait à l'époque où les quotas carbone ont été mis en œuvre pour les installations, en gros 10 000 installations industrielles les plus polluantes en Europe. On disait « Ah, mais si on met en place des quotas payants, les industries vont délocaliser, etc. » Bon, en fait, on s'aperçoit que tout ça ne résiste pas à l'épreuve des faits, qu'il peut y avoir des approches mises en œuvre pour éviter ce type de fuite. Dans le cas effectivement de l'ISF, on n'a aucun élément qui démontre ce caractère prétendu contre-productif de l'ISF, qui rapportait effectivement plus ou moins 5 milliards d'euros par an. Oui. Comme l'a dit Monsieur Chancel, on peut tout à fait augmenter ce rendement d'une façon qui soit juste et équitable en réduisant les possibilités d'évitement. Et puisque nous, on propose, c'est d'y adjoindre donc un prélèvement, encore une fois indexé, sur les émissions de gaz à effet de serre des placements financiers, qui pourrait à peu près doubler le rendement.
Alors,
donc,
ça, en effet.
Si on arrive à... Nous, on calculait sur la base de 50 euros la tonne de CO2. Et aujourd'hui, c'est un petit peu plus, la tonne de CO2 sur le marché européen. On estimait que on rajoutait à peu près 5 milliards au rendement de l'ISF. Si on arrive à quelque chose de l'ordre de 10 à 15 milliards, ça n'est pas du tout négligeable par rapport à la question du financement. Et puis, en revanche, on est loin de dire que c'est la seule solution. Bien sûr, il y a d'autres solutions.
Alors, on va en parler des autres solutions. Ne vous inquiétez pas, Jérôme Frignet, je rappelle que vous êtes directeur des programmes. Alma Defour, vous vouliez réagir.
Oui, je voulais rebondir. Je pense que là, le débat s'engageait sur l'ISF, mais sur aussi un autre propos qui a été tenu sur le fait d'augmenter la taille du gâteau.
Alors, c'est ce que disait Olivier Blond, c'est-à-dire vous disiez produire plus de richesses plutôt qu'imposer un ISF climatique.
Mais ça, c'est typiquement exactement ce qu'il faut pas faire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas effectivement avec la même logique économique qui préside depuis les années 80 dans le monde entier qu'on va résoudre les problèmes que cette logique économique est visiblement incapable de résoudre. C'est-à-dire que le changement climatique, on est au courant à peu près depuis les années 70. Les premiers accords internationaux, ça date de 1990. En 1990, on vous disait justement ça, augmentons la croissance. Parce que augmenter la croissance fait qu'on va trouver des nouvelles technologies vertes. Ces technologies vertes vont permettre de réduire les émissions tout en maintenant le niveau de vie, en l'accroissant, etc., en l'augmentant. Ça n'a absolument pas fonctionné. Parce que si vous augmentez le gâteau, vous augmentez tout le gâteau. Le gâteau vert et le gâteau qui pollue. C'est-à-dire, vous voyez bien qu'aujourd'hui, on arrive à peine à une équivalence en 2023 des investissements dans les énergies fossiles et dans les énergies renouvelables. Ça fait 20 ans qu'on aurait dû prendre ce virage. 20 ans, on se retrouve au pied du mur parce que cette logique de créer toujours plus de richesses, elle ne fonctionne pas. S'il n'y a pas d'encadrement de l'économie, d'encadrement de certains secteurs, en fait, le marché fait que les activités polluantes croissent de façon naturelle de plus en plus. Donc ça, c'est impossible, de raisonner comme ça. Et la deuxième chose aussi, parce que le gâteau, il va baisser de façon naturelle, en tout cas sur un certain nombre de richesses, puisque le changement climatique, un de ses premiers impacts, c'est de, par exemple, réduire la disponibilité de la ressource en eau. Bah, ça peut paraître un détail, j'en ai parlé, mais en fait, ça fait une grosse partie du gâteau, bien en sûr, vrai. Ouais. Donc, réduire la production alimentaire. Donc, réduire pas mal de choses qui participent à la richesse générale. Donc, le gâteau, en fait, il baisse. Normalement, il baisse avec le changement climatique. Donc, on ne peut plus être dans cette logique-là.
Olivier, bon, justement, qu'est-ce que vous en pensez voilà, par rapport à ça?
Évidemment, je suis complètement pas d'accord.
C'est ça qui est intéressant, c'est de pour savoir, ça que, de connaître les arguments,
c'est intéressant. Mais il y a deux points, je pense, saillants dans ce qui vient d'être dit. La première chose, c'est qu'il ne faut pas augmenter la richesse. Mais en fait, je trouve que c'est très problématique de dire ça, parce que, surtout pour des gens de gauche qui s'intéressent justement à essayer de résoudre la pauvreté, eh ben la pauvreté, on la résoudra aussi en augmentant la richesse des gens, des particuliers.
Oui, mais et pas dans n'importe quel pays et n'importe quelle richesse.
En tout cas, en France, si on veut lutter contre la pauvreté, eh ben ça veut dire aussi augmenter la richesse.
Non,
je pense que les deux sont indissociablement liés. Je regrette que les gens qui disent on veut lutter pour la richesse des gens, on ne se retrouve pas plus nombreux autour de cela. Mais il y a un deuxième point qui est important aussi dans ce que vous avez dit, et qui je pense est complètement faux, c'est qu'on ne peut pas continuer à augmenter la richesse en diminuant notre impact écologique. Mmh. C'est en fait ce qui se passe aujourd'hui. Non. L'impact, les émissions de gaz à effet de serre de la France, par exemple, ont diminué autour de 20, un petit peu moins de 20% en 20 ans. Bon, c'est pas assez, on est d'accord, mais c'est une vraie diminution, alors que dans le même temps, il y a une augmentation du PIB, aussi imparfait que soit cet indicateur. Donc aujourd'hui, on voit en France qu'on produit plus de richesses en émettant moins de CO2, et c'est vrai dans à peu près toutes les économies d'Europe occidentale, et voire occidentale en sens global. C'est ce que le GIEC lui-même note dans son rapport, ça s'appelle le découplage, c'est quelque chose qu'il faut encore accélérer, accroître, mais ça existe, c'est les faits pour le coup.
On va continuer à en parler dans un instant, n'hésitez pas à réagir sur l'appli France Inter en nous laissant des notes vocales et des messages, et via WhatsApp, via le numéro 07 64 13 70 07 64 13 70 07. On réfléchit à comment financer cette transition écologique. Faut-il un ISF climatique? On voit ça. Je ne sais pas s'il y aura une réponse, mais on voit ça dans un instant avec, après, Flavien Berger et Feu Follet.
Les harmoniques résonnent sans moi. Les feux follets, follets, follets. Peinard physique, c'est loin. C'est quoi les feux follets? Je te rassure, ma sœur, les souvenirs m'asserrent et redonne des fleurs. Trop ivre pour te plaire, trop pique du cancer. Bah faut pas s'affoler, ce feu est éphémère.
Le débat de midi, comment financer notre transition écologique. Il nous faudrait 66 milliards par an. Alors, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le rapport France Stratégie qui dépend de Matignon, du Premier ministre, de la Première ministre. Pour en parler autour de la table, il y a Alma Dufour, députée France Insoumise, Olivier Blond, professeur de santé environnementale à l'Université catholique de Paris et conseiller régional Île-de-France. Également, Lucas Chancel, économiste français enseignant à Sciences Po, et Jérôme Frignet, directeur des programmes de Greenpeace. Alors vous pouvez bien sûr nous laisser des messages via l'appli France Inter, aussi via un numéro WhatsApp le 07 64 13 70 07 et bien vous nous avez laissé quelques notes vocales. C'est le cas de Théo, et alors vous allez le voir, Lucas Chancel, lui carrément Théo propose aussi peut-être une autre forme de financement. On l'écoute.
Bonjour, je m'appelle Théo, j'habite en Haute-Savoie. Ce matin sur France Inter, vous évoquiez l'idée d'un ISF climatique. Moi, j'ai vraiment de grosses réserves pour cette solution, parce que je pense que tous les riches ne sont pas forcément plus polluants. Donc même si on a envie d'aller chercher l'argent là où il y en a, ça pourrait quand même être un impôt injuste. Ce qui me paraîtrait plus juste, c'est peut-être une TVA climatique, c'est-à-dire une taxe qui s'appliquerait aux produits les plus polluants. Alors, on pense tout de suite à l'avion, mais il y a aussi des produits essentiels du quotidien qui polluent.
Voilà, Lucas Chancel. Donc, je rappelle, vous êtes économiste français. Cette proposition, alors, en effet, lui, Théo dit, en effet, ça peut être injuste, un ISF climatique. À ce moment-là, si tout le monde devrait payer, comme la TVA aujourd'hui, que l'on soit riche, que l'on soit plus modeste, est-ce que aussi ça peut être une solution? Et surtout, est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça serait efficace?
Je pense qu'il faut distinguer deux choses. La première, c'est le besoin de financement public supplémentaire pour abonder ces 66 milliards d'euros par an. Environ la moitié, hein, selon le rapport Pisani-Ferry, une trentaine de milliards par an. Ici, c'est indépendamment du fait que les plus aisés émettent beaucoup de carbone ou pas. On est sur un principe de justice fiscale simple, tel que énoncé dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est-à-dire que chacun doit contribuer à la charge fiscale, aux impôts, en raison de ses facultés. Et donc, les plus aisés doivent contribuer davantage. Ça, c'est le premier point. Donc, vraiment indépendamment de la dimension pollution. D'accord. Et donc, c'est le premier point qui vient me dire que je suis en désaccord avec ce qui vient d'être annoncé. Le deuxième point sur l'impôt sur la fortune climatique, c'est de dire que les milliardaires, à travers leurs placements financiers, vont polluer davantage que les classes moyennes et les classes populaires. Et ce point-là, il peut y avoir quelques exceptions à la règle, mais en règle générale, il est très largement vérifié.
Voilà, parce qu'il faut juste expliquer une chose. En effet, ce que vous dites, Lucas Chancel, c'est vrai qu'on est toujours un peu dans le cliché. On se dit, ah, vie de milliardaire, tout de suite, ça va être digne d'un rêve de télé-réalité. Et en fait, là, vous parlez, en effet, des placements. C'est là où c'est plus subtil. C'est-à-dire qu'un placement, en effet, si vous avez une vie tout à fait modeste, mais si vous placez ça, par exemple, des mines de charbon, c'est là où c'est vraiment polluant.
Bah, on peut imaginer un exemple tiré à l'extrême où quelqu'un aurait complètement rénové sa maison, ne prendrait plus les transports carbonés, serait complètement végétarien, mais placerait 100 millions d'euros d'actions dans une compagnie pétrolière. Et là, on voit bien qu'on ne peut pas juste s'intéresser à la consommation, à la TVA, qui par ailleurs est un impôt qui est fondamentalement inégalitaire parce qu'il va peser davantage sur les plus modestes que sur les plus riches. Quand on pense à la TVA sur les carburants, en proportion de leurs revenus, de leur consommation, les plus modestes vont payer davantage que les plus aisés. Donc, il faut s'intéresser aux placements financiers également. Et c'est là qu'on voit une deuxième ligne d'argument en faveur d'un ISF climatique qui serait de dire on a envie d'assécher les placements carbonés, c'est-à-dire de mettre un malus sur les investissements polluants. Peut-être on peut donner un bonus sur les investissements verts par ailleurs, mais on va essayer d'assécher ces investissements-là en les tarifant davantage, en mettant l'équivalent d'une taxe carbone, mais sur l'investissement et pas seulement sur la consommation. Quand on a fait ça, on a vu ce que ça a fait en France, c'était les gilets jaunes.
Anne Dufour.
Oui, alors je vais rebondir, c'est très intéressant parce que, en gros, ça permet d'expliquer pour rebondir à ce qui a été dit tout à l'heure. Il y a les émissions de la France, et puis il y a les émissions que l'on importe. Quand on ajoute les impacts par rapport à la décarbonation de l'économie, quand on ajoute les émissions importées en Europe et au modèle français, on se rend compte que la baisse des émissions, elle est quand même beaucoup moins forte que ce qu'on pense, puisqu'on a beaucoup délocalisé, y compris dans l'industrie, où en fait les vraies baisses d'émissions en France qui ont été réalisées dans ce secteur l'ont été parce qu'il y a eu des délocalisations, notamment dans le secteur des raffineries qui sont parties au Moyen-Orient. C'est important de le dire, parce que sinon on vous présente un tableau économique, oui on va y arriver, laissez-nous un peu de temps, ça fait 50 ans qu'on dit ça, la réalité c'est qu'en fait on s'en sort en délocalisant et que les émissions au niveau mondial, elles augmentent, elles ne réduisent pas. Et c'est bien le problème. Donc ça, c'est la première chose. Et il y a le système, donc il y a les émissions importées, il y a carrément le système France financier. Et là, c'est le CAC 40 et là, c'est les placements. Et effectivement, quand on regarde le CAC 40, les entreprises, les multinationales du CAC 40, elles émettent 11 fois plus que la France. D'accord. 11 fois plus, notamment évidemment Total Energy, mais aussi la BNP Paribas, des grands acteurs comme ça qui financent massivement les énergies fossiles. Ça, c'est la réalité. Et donc, ce qui a été dit est très juste. Les riches, en fait, c'est pas que quand ils profitent, quand ils font du jet privé, s'achètent des vêtements, c'est surtout, ils gagnent de l'argent sur des activités polluantes. Et Total Energy, je veux dire, c'est un exemple parfait. C'est quand même l'entreprise du CAC 40 qui distribuait le plus de dividendes il y a 2 ans. Et c'est une entreprise qui n'est pas du tout engagée dans une transition compatible avec l'accord de Paris. Pour rebondir sur la TVA et les gilets jaunes, voilà. En fait, moi, j'étais gilet jaune et je pense que cet auditeur, du coup, n'a pas compris ce qui s'est passé en 2019. C'est que les gens, ils sont mis au pied du mur. Quand typiquement, sur votre voiture, vous n'avez pas le choix de prendre votre voiture quand vous habitez loin de chez vous. Chez moi, quand l'essence était à 2,30€ le litre, les gens, ils se privaient de nourriture. Mais ils étaient obligés d'aller bosser. Je veux dire, en fait, le problème, c'est que les gens des classes populaires n'ont pas forcément les moyens de changer de mode de consommation, ni de rénover leur logement. Et ils font face à un mur des investissements, et c'est aussi pour ça qu'on a besoin de l'argent. Vous disiez rénovation énergétique, transport en commun, on attend des alternatives. Parce qu'on n'est pas tous égaux devant la transition, et faire une taxe carbone sur tous les produits, vu comment l'inflation tape fort aujourd'hui déjà sur les Français, c'est la pire des solutions.
Jérôme Frignet, donc c'est... d'être directeur des programmes de Greenpeace, vous avez initié cette ISF climatique chez Greenpeace. Pourtant, quand on voit Jean Pisani Ferry, donc économiste, qui lui proposait dans son rapport, proposé à Elisabeth Borne, de mettre en place une taxation, il ne parlait pas d'ISF. Il préférait parler d'un impôt, même temporaire, pour les 10% des ménages les plus riches. Est-ce que vous voyez une différence, vous, par rapport à votre proposition?
Alors déjà, sur le caractère temporaire, j'ai un peu de mal à comprendre et je pense qu'il faut pas mentir aux gens. On l'a dit, le financement de la transition écologique, il va se faire sur des décennies. Donc dire, on met en place un mécanisme temporaire, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que d'ici 2 ou 3 ans, on n'aura plus besoin de ces financements. C'est pas vrai. Ne parlons pas de mécanisme temporaire, mais d'un mécanisme permanent et pas d'un mécanisme, mais de plusieurs. Pour rebondir sur la remarque de l'auditeur, il y a effectivement des cas où la TVA ou la fiscalité des carburants est aberrant. C'est le cas des transports aériens, par exemple.
Bien sûr.
Le kérosène est défiscalisé. Alors même que prendre l'avion, tout le monde s'accordera à reconnaître, c'est quand même un besoin moins urgent ou nécessaire quotidiennement pour la grande majorité des Français. Alors pourquoi est-ce qu'on défiscalise le kérosène ? Là, clairement, une augmentation ou mettre en place une fiscalité du kérosène serait une mesure qui serait acceptable socialement et qui serait utile en termes de recettes, mais qui permettrait aussi, comme l'a dit Lucas Chancel, et c'est effectivement un élément important aussi de notre proposition sur l'ISF climatique, qui permet aussi de décourager la prise de l'avion. Et ça, on sait que c'est nécessaire. Il va falloir aller vers moins de vols, alors qu'aujourd'hui, on est revenu au niveau de 2019 en matière de vols.
Ah, c'est une fameuse contradiction à chacun. Je veux dire, on a tous conscience du réchauffement climatique, mais aussi, voilà, on veut aussi partir en vacances. C'est toujours l'éternelle discussion.
Mais du coup, il paraît très logique d'augmenter la TVA sur les billets qui est très basse, et puis de mettre en place une fiscalité sur le kérosène. Pourquoi est-ce qu'on taxe le carburant nécessaire quotidiennement à des millions de personnes pour aller travailler? Pourquoi est-ce qu'on ne taxe pas le kérosène, qui est utilisé en majorité, pas uniquement, mais en majorité, à des fins de loisirs? Et en tout cas, c'est le secteur qui est le plus en croissance, hein, par rapport au transport business ou familial, pour des gens qui ont leur famille dans des pays éloignés.
Donc voilà, ça c'est une piste, en effet.
Sur d'autres mécanismes, mais effectivement, il faut peut-être aller là-dessus. On évoquait le cas de Total Energy.
C'est pour ça que oui.
Total Energy, en 2022, réalise 20 milliards à peu près de profits. Il faut savoir, et en général, on s'en rend pas compte, que l'essentiel, la majorité de ces profits sont utilisés pour rémunérer les actionnaires. Ouais. C'est-à-dire rendre l'investissement dans Total Energy plus attractif.
Jérôme Frignet, il y a aussi, moi il y a une question aussi que j'aurais posé à Olivier Blond. On le voit là sur par WhatsApp, on a reçu une question de Nicolas qui lui dit pourquoi ne pas taxer la spéculation comme le propose député Larutourou, pourquoi finalement, est-ce que ça peut être une piste aussi finalement, la spéculation?
Je pense que il y a encore une fois plusieurs pistes possibles.
C'est ça, oui.
Mais il faut voir laquelle est pratiquement, concrètement réaliste. Aujourd'hui, la taxation du kérosène sur l'aviation, tout le monde y pense, évidemment. Pourquoi est-ce que ça ne se fait pas? Parce que si on le fait de manière unilatérale en France, qu'est-ce que ça va faire? Ça veut dire que les avions vont continuer à faire le plein, mais ils vont aller faire le plein aux autres escales. Et donc, en fait, ça ne va pas avoir un impact positif.
Donc vous diriez qu'il faudrait une décision mondiale, en fait, c'est ça, voilà.
Oui, encore une fois, quand on parle d'économie, on fait face à des stratégies d'évitement, à des gens qui essayent d'optimiser leur investissement, leur activité, etc. Et donc, les bonnes idées, entre guillemets, souvent, elles sont contre-productives. Et c'est vraiment ça qui doit nous réunir aujourd'hui, c'est comment être efficace, pas seulement des bonnes idées, des bonnes intentions, pas ressortir, ok, l'ISF, etc., on se fait plaisir, on a l'impression qu'on est contre les riches, etc. Mais en fait, c'est pas ça qui va résoudre le problème. Et juste, je voudrais rebondir sur un petit point.
Oui, mais Olivier Blond, moi j'avais juste une question. C'est vrai qu'en effet, on le voit, mais c'est vrai qu'on voit par exemple aujourd'hui l'Europe, là, qui s'apprête à voter un plan comme jamais on a pu le voter en Europe sur l'environnement, sur la biodiversité. C'est pas parce que, à côté, on ne le fait pas que l'Europe doit pas le faire. Je veux dire, il y a un moment, il faut aussi, à un moment, avancer sur ces sujets.
Mais il y a plein de choses qu'on peut faire. Il faut faire ce qu'on peut faire.
Oui.
Quand c'est efficace.
Oui, la question que j'ai envie de poser à Monsieur Blond, mais aussi au gouvernement, c'est-à-dire, d'accord, vous dites c'est pas possible. Bon, déjà, encore une fois, ce discours-là, on l'entend depuis les années 80, c'est un puits sans fond. De toute manière, oui, si on ne change pas les règles du jeu de la libre circulation du capital et qu'on ne change pas les règles économiques qui nous empêchent de sévir quand on évite les taxes qu'on veut imposer, c'est sûr qu'on ne va pas s'en sortir. Il y a des pays qui ont réussi à le faire récemment, dont l'Argentine.
Ils ont fait ce qu'ils
pouvaient. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient pour juguler l'inflation.
C'est encore amener la pauvreté pour tout le monde.
Voilà,
c'est pas
ensuite. Je suis fascinée parce que. Encore une fois, la plus grande menace, c'est le changement climatique. Attendre de la gouvernance internationale des changements, vu tout ce qui s'est passé, vu l'accord de Paris, qui n'est pas respecté. Les engagements des États déjà sont insuffisants et ne sont pas respectés. Ça, c'est ça le niveau de la gouvernance internationale sur le climat aujourd'hui. Il faut qu'il y ait des États pionniers. Il faut que État après État après État, il y ait des changements qui s'opèrent. Vous pouvez pas attendre que les autres soient d'accord avec vous. On y est encore dans 20 ans. Et la question, c'est que le gouvernement ne nous dit absolument pas comment il compte financer les investissements supplémentaires. Comme je l'ai dit, la seule réalité aujourd'hui, c'est qu'Emmanuel Macron avait promis 10 milliards en plus chaque année.
Ça, on n'y est pas. Dit, oui,
là, maintenant, il faut 60 milliards en plus. Alors là, je pense qu'on peut rêver. Et honnêtement, à chaque fois qu'on discute avec des chercheurs, tout le monde nous dit que l'atteinte de la réduction de moitié des émissions de gaz à effet de serre, comme ce sont nos engagements, en 2030, est quasiment impossible à ce stade. Ouais. Donc moi, j'aimerais bien, puisqu'on nous critique toutes les solutions qu'on émet, on dit toujours c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, mais aucune solution crédible n'est apportée. Là dans
alors,
le court
moi,
terme.
Je vous en
Olivier Blanc, allez-y.
C'est la position que je défends, qui ne résout pas tous les problèmes, mais qui est d'augmenter la taxe carbone, de l'augmenter de manière forte, mais de la redistribuer intégralement. Ça a été fait, par exemple, en Colombie-Britannique, donc qui est une province du Canada. Ils ont fait une forte taxe carbone et ils l'ont redistribuée intégralement. C'est-à-dire qu'en fait, et sur des critères sociaux, donc ils ont donné en fait, de l'argent aux pauvres et ils en ont pris aux riches, d'une certaine manière. Ça devrait vous plaire. L'avantage de cette mesure, c'est qu'elle est acceptée. On a vu dans les sondages que la population qui était initialement hostile à la taxe carbone est devenue favorable parce qu'elle voyait son intérêt. Et on a le plus important dans la taxe carbone, c'est le signal prix qui va permettre de réorienter l'économie. Alors, ça ne suffit pas pour tout, ça ne suffit pas pour résoudre la question de l'investissement, mais ça l'oriente, puisqu'il n'y a pas que l'orientation, il n'y a pas que l'investissement public, il y a l'investissement privé qui existe. Et puis, il y a d'autres États qui ont fait la même chose avec des variantes. Par exemple, la Suisse qui a dit, OK, on ne va pas redistribuer 100% de la taxe carbone, mais on va en distribuer 60%. Ou l'Australie qui a fait à peu près la même chose. Alors, à chaque fois, on donne de l'argent aux personnes qui en ont le plus besoin et on libère une capacité d'investissement pour les sujets climatiques, alors que ce soit dans le bâtiment ou les transports.
Voilà, alors augmenter la taxe carbone, ça peut être une idée.
On la redistribue parce qu'il faut que ce soit social. Évidemment, on a bien compris, les gilets jaunes, c'est un massacre social.
Bien sûr, il y a également Evelyne hein, qui nous dit voilà, qu'elle, par WhatsApp, qu'il faudrait faire payer une taxe aux personnes qui prennent souvent l'avion, comme ceux qui ont des bateaux de croisière. Voilà, c'est-à-dire évoluer, en fait, faire les tarifs en fonction de la pollution, mais le mettre véritablement sur tout le monde. Lucas Chancel, très rapidement, s'il vous plaît, parce qu'après on va enchaîner.
C'est un point sur lequel on peut s'accorder. L'exemple de la Colombie-Britannique est intéressant. Taxe carbone avec l'entièreté des recettes redistribuées sous critères de revenus. Le problème, comme il a également été dit, c'est que ça ne règle pas la question des investissements, notamment publics. C'est-à-dire que si vous avez une taxe carbone, mais que vous n'avez pas de transport en commun autour de chez vous, ça sert en fait.
Bah voilà.
Voilà. Vous n'avez pas vraiment de solution.
En fait, il faut des infrastructures.
Par ailleurs, un point quand même sur le côté financier de l'affaire. On parlait du non-respect de l'accord de Paris. On sait que les plans, les programmes, les stratégies des grandes entreprises du gaz et du pétrole sont incompatibles avec l'atteinte des 1,5 degrés, en tout cas selon de nombreuses études indépendantes. À un moment, les États dans lesquels ces entreprises sont enregistrées devront dire il y a un décalage ici. C'est-à-dire que les actionnaires ont un super rendement lorsqu'ils investissent dans ces entreprises qui sont en train de détruire littéralement la planète et nos chances de respecter l'accord de Paris. Aujourd'hui, ça rapporte davantage d'investir dans notre géant pétrolier national que d'investir dans un livret de développement durable. Ouais, il y a quand même un petit décalage ici par rapport à l'urgence absolue du changement climatique.
Allez, on va revenir justement pour parler de l'urgence climatique, de son financement, de la transition. Dans un instant, dans le débat de midi, juste après, eh bien, Janelle Monáe avec un titre de circonstance, Champagne Shit.
Champagne shit. Everybody turn around taking them pics, cause I'm on my champagne shit. And I'm throwing them tips on my champagne shit. And she throwing them hips, cause I'm on my champagne shit. Now shake it all up. Move your little hip, hip, hips. Back your ass up. And do that little skip, skip, skip. It's all in her hips. It's all in them hip, hip, hips. She got them dimples in her back. And I'm on my champagne shit. Shit about work, cause I'm on my champagne shit. I'm talking high heels and no shirt, cause I'm on my champagne shit.
I used to pray about taking vacations. Remember them bills we split. Now I'm here with Bueno and we busting bottles like we won a championship. Yeah, I like all my kisses French when I'm on my champagne shit. Everybody turn around taking them pics cause I'm on my champagne shit. And I'm throwing them tips on my champagne shit. And she throwing them hips cause I'm on my champagne shit. Now shake it all up. Move your little hip, hip tips. Back that ass up. Do that little skip, skip, skip. It's all in her hips. It's all in them hip, hip, hips. She got them dimples in her back. And I'm on my champagne shit.
France Inter. Jean-Mathieu Pernin, le débat de midi.
Le débat de midi, on s'intéresse au financement de la transition énergétique et cette proposition de Greenpeace depuis 2020, instaurer un ISF climatique, faire payer les Français les plus riches hein, pour nous aider à trouver ces fameux 66 milliards par an qu'il nous faudrait pour adapter l'économie française au changement climatique. On a déjà exploré plusieurs pistes dans le débat de midi. Vous pouvez nous laisser vos messages et vos notes vocales sur l'appli France Inter. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Christophe de Grenoble.
Oui, bonjour. Je pense que cette histoire d'ISF climatique est une vaste fumisterie. Car les gens qui ont énormément d'argent, comme ceux qui ont des super yachts par exemple, se permettent de faire des pleins de leur réservoir à gasoil qui leur coûte à peu près 20 à 25 000 euros. Tout ça pour aller faire trempette dans une petite crique secrète dans un coin reculé de la Méditerranée. Donc, et je pense qu'ils s'en foutent royalement de payer un peu plus ou un peu moins. Voilà.
Voilà, Olivier Blanc, on est dans ce que vous disiez, stratégie de l'évitement. C'est ça, par exemple, là, ce que dit notre auditeur. Là, par exemple, en effet, un plein d'essence, quand on est un yacht en Méditerranée, on ne va pas le faire, en effet, dans un port français, mais peut-être on peut aller à Malte. Voilà.
Très clairement, et le problème, c'est que, bien sûr, on peut regretter qu'il y ait cette mondialisation financière, ces échanges de marchandises à l'échelle de la planète, mais ils sont là, et aujourd'hui, ben, il faut en tenir compte, et si on n'en tient pas compte, en fait, on obtient le résultat inverse de ce qu'on on espérait. Et juste, je reprends l'exemple de la relocalisation. Mmh. Enfin, les émissions de gaz à effet de serre en France, elles diminuent fortement, elles ont diminué en partie parce qu'on a délocalisé une partie de notre industrie. C'est vrai. Et justement, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut relocaliser, il faut rapatrier une capacité industrielle en France, construire des usines, il faut construire des objets, donner de l'emploi à des gens, donner des salaires, générer des impôts. Et en construisant cette richesse-là, eh ben, on va trouver les moyens de trouver des financements pour la transition. Ce n'est pas en arrêtant de construire et de produire qu'on va générer plus de richesses. Au contraire, relocaliser la production en France, ça a été évalué par un certain nombre d'économistes, ça nous fait gagner de l'ordre de 900 millions de tonnes de CO2 d'ici 2050. C'est conséquent, c'est pas suffisant, mais c'est conséquent. Et ça génère de la richesse, et donc ça nous donne de l'argent pour investir.
Alors voilà, il nous reste très peu de temps, donc je vous demanderai à chacun d'être assez concis. On va commencer juste, si vous le permettez, il faut par Lucas Chancel. J'ai juste une question à vous poser. On a reçu ce message de la part de Tony via l'appli France Inter, qui nous dit, à propos de la taxation des plus riches, toutes les classes sociales américaines ne se sont jamais autant enrichies que sous Roosevelt, lorsque les riches étaient taxés à plus de 85% au-dessus de certains revenus, ce qui a été démoli par Reagan, et la pauvreté s'est installée. La réparation des richesses n'empêche en rien l'enrichissement. Est-ce que c'est vrai ?
En fait, c'est 94% même pour la tranche supérieure marginale d'imposition, donc sur les très très riches. Pourquoi ? Parce que Roosevelt, en 1942, il est face à un effort industriel et militaire extrêmement important, et il dit, ce n'est pas normal, c'est même inconcevable que certaines personnes puissent gagner plus de 1 million de dollars, je rapporte en dollars d'aujourd'hui, mais 1 million de dollars à l'époque. Et donc, il propose même un taux de 100%, c'est-à-dire un revenu maximum. Il n'y arrive pas, parce que le Congrès dit, c'est quand même peut-être un petit peu élevé, et donc, il parvient à
94%. Ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est de dire que dans tous ces moments de stratégie industrielle, d'élan national, qui demandent une sorte d'unification autour d'un effort collectif, eh bien, il y a cette idée qu'il faut que les plus riches soient mis à contribution. Et je rebondis sur la personne qui est intervenue précédemment et qui dit il faudrait quand même pas que les plus aisés puissent s'en tirer sans modifier leur mode de vie en payant un petit peu plus.
C'est ça.
Et donc là-dessus, je redis encore une fois que l'ISF climatique, il a deux versions. La première, il s'agit essentiellement de récolter du financement public pour permettre à chacun ensuite d'effectuer, d'opérer cette transition. Et la deuxième, c'est effectivement pour essayer d'assécher certains types d'investissements qui seraient polluants. Mais on ne va pas pouvoir tout faire avec cette ISF climatique. Je pense que là, tout le monde se rejoint. Il faut une multitude de politiques publiques et notamment discuter également de la question des quotas.
Alors, Anne-Mathieu, j'ai juste une chose très concrète. Non, mais très concrète pour vous. Non, mais justement, il y a un moment aussi, il faut que ça soit concret parce qu'on ne parle pas que aussi des plus riches. Par WhatsApp, Guylaine nous dit qu'elle est en train de rénover sa maison, voilà, de 90 mètres carrés, et qu'elle se rend compte qu'en fait, que, eh bien, aujourd'hui, il y a une TVA, une construction neuve, la TVA est à 20%, alors que la personne qui va isoler sa maison avec, eh bien, des panneaux de moins mauvaise qualité, finalement, ce sont des produits de mauvaise qualité qui sont moins taxés. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des choses sur les taxations qui fait qu'à un moment, on marche sur la tête, on se dit les produits aujourd'hui qui sont les moins bons pour l'environnement sont moins taxés que ceux qui sont bons pour l'environnement ?
Alors, non mais je vais quand même, pardon, oui, mais je vais quand même revenir sur, pour résumer mon propos.
Mais je vous en prie, résumer, mais c'était pour aller sur les choses concrètes.
Non mais très concrètement, taxer les produits, ça peut être intéressant, ça dépend des secteurs.
C'est
ça dépend des secteurs, il faut faire très attention. Vous avez vu ce que ça fait l'inflation aujourd'hui en France ? Aujourd'hui en France, là, on n'est pas sur de la transition écologique. On est à une inflation alimentaire record. Il y a un Français sur six qui saute des repas tous les jours. C'est ça que ça veut dire. Moi, quand je vous ai dit, je vous parle de chez moi, je suis élue sur un territoire très pauvre. Quand l'essence, elle est à 2,30€, les gens se sautent des repas. Ou les gens, les intérimaires, arrêtent de travailler. Ça, c'est la réalité. Donc, on ne peut pas dire taxe carbone généralisée sur tout. Et puis, les plus riches se débrouillent. Et puis, les plus pauvres casquent. Parce que c'est ça, hein, les gilets jaunes. Donc, attention, l'aérien, oui, parce que c'est un truc de confort, c'est un truc de loisir. Il faut taxer le kérosène. Moi, je suis d'accord avec ça. Relocaliser, oui. Et donc taxer ce qu'on importe massivement.
Mais pas taxer l'essence des automobilistes, par exemple.
Bah écoutez, justement, sur la rénovation des logements et sur le transport, c'est là où il y a le moins de marge de manœuvre.
Oui,
c'est
mais
là où vous avez le moins de choix, parce qu'un véhicule neuf, un véhicule électrique neuf, ça vous coûte le moins cher 22 000 euros. Vous êtes au SMIC, vous pouvez pas vous le
bien
payer.
Sûr.
Et si vous n'avez pas de transport en commun chez vous, vous n'avez pas de transport en commun chez vous. C'est le cas sur mon territoire. Donc il faut vraiment voir là où la demande, elle est élastique, comme on dit, là où les gens, ils peuvent faire autrement, et s'ils ne peuvent pas, il faut taxer les investissements. Et c'est pour ça qu'on revient sur la proposition initiale de l'ISF. C'est-à-dire, il faut taxer, c'est les multinationales qui décident de ce qu'on va consommer demain et quels investissements vont être faits énergétiquement demain. Donc c'est Total qu'il faut aller chercher sur ces projets sur 10 ans. Pas le consommateur qui se retrouve au plein d'essence s'il a pas de métro chez lui, ce qui est le cas chez moi. C'est ça que je veux dire.
Et sur les quotas. En même temps, ça peut se comprendre aussi quand on dit aujourd'hui, quand on voit des élus écologistes qu'il faut taxer davantage l'essence. Parce qu'on sait que c'est aujourd'hui responsable d'une pollution extraordinaire.
Oui, mais encore une fois, c'est pas parce que vous matraquez les gens que ça leur donne des alternatives. Non, mais chez nous, ce qu'on dit, c'est écoutez, investissez l'argent, faites des lignes de transport en commun. Nous, on doit attendre. On dit, vous aurez votre ligne de métro peut-être en 2035.
Là, vous parlez de quel coin de France ?
De la Seine-Maritime. Là où je suis. Est-ce que c'est sérieux ? Est-ce que c'est sérieux ? On parle de l'urgence écologique. Chez moi, l'essence et la dépendance à la voiture est un vrai problème climatique, mais aussi de pouvoir d'achat. Les gens sont pris à la gorge. Dès que le prix fluctue, c'est la merde. Passez-moi l'expression. Donc, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire très attention à pas matraquer là où les gens, les consommateurs, n'ont pas de marge de manœuvre. Mmh. Et quand c'est comme ça, sur ces secteurs-là, c'est les producteurs. C'est les entreprises qu'il faut aller chercher.
Alors, Jérôme Frinier, vous entendez aujourd'hui tous ces arguments. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'en effet, votre idée d'ISF climatique, pour reprendre notre question du début, pourrait voir le jour en France ?
Alors, oui, absolument. La question, c'est vraiment celle de la volonté politique. C'est celle d'aller au-delà des préjugés idéologiques néolibéraux. Et de mettre en place une mesure de bon sens. Après, comme on l'a dit, ça ne suffira pas. Donc, je veux rebondir sur ce qu'évoquait Alma Dufour sur les entreprises. Oui, il faut taxer là aussi. Donc, Total Energy qui fait 20 milliards de bénéfices et qui ne paie pas d'impôts sur les sociétés en France ces dernières années. Quand même, il faut garder ça à l'esprit. Là, il est absolument nécessaire, en application du principe pollueur-payeur, tout simplement, de taxer les entreprises dont l'activité principale et la source de profit principale est très émettrice de CO2. Donc c'est évidemment le cas des producteurs de pétrole, de gaz, de charbon. Il faut taxer ces entreprises-là. Au niveau mondial, on est d'accord, parce qu'on a des besoins de financement au niveau mondial et au niveau domestique. Mais il faut aussi taxer les détenteurs d'actions et notamment le versement des dividendes. C'est aussi une proposition qu'on fait. Encore une fois, parce que, pour reprendre les termes de Lucas Chancel, pour essayer d'assécher au maximum ces fonds qui servent à développer de nouveaux projets d'énergie fossile.
C'est bien, en tout cas, en tout cas, on le voit, il y a 66.
Donc, l'idée, c'est de réduire l'attractivité. Des investissements dans ces entreprises.
C'est noté, Jérôme Frignet, parce qu'on va devoir, se quitter. Hein, c'est pour ça, j'imagine bien. En effet, qu'il y a plein d'idées, mais en tout cas, c'est, on le voit, assez passionnant le financement de cette transition énergétique. Merci beaucoup, Jérôme Frignet. Vous étiez à distance. Merci Olivier Blond, Alma Dufour et Lucas Chancel d'avoir débattu. Merci également à Lison Berguet pour la technique, à la réalisation Étienne Bertin et Constance Villanova, Aloïse Nollet, Mathilde Texier et Savannah Ruelland pour la préparation de l'émission.